main dans la terre. On donne la voix à celles et ceux qui imaginent et bâtissent dès aujourd'hui l'avenir agricole de nos territoires. Bonjour à tous, je suis Oriane de l'association Terre et Humanisme. Aujourd'hui, nous explorons un pilier de la résilience, la place de l'animal. Peut-on imaginer une agriculture durable sans animaux ? Pour en débattre, j'accueille Simon de la ferme de la Blache, éleveur de chèvres laitières en Châtaigneraie, et Tom de la maraiverie du hameau du Buis. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Oriane.
Pour commencer, est-ce qu'on peut vraiment faire du bon légume ou de la châtaigne sans l'aide des animaux ? C'est une grande question. On a souvent réduit l'animal à sa production de viande ou de lait. Pourtant, en agroécologie, on l'utilise d'abord pour son travail invisible. Tom, en tant que maraîcher, enfin, si comme tu travailles un peu en adéquation avec le maraîchage, on imagine souvent que tu n'as besoin que de soleil et d'eau, mais quelle place tient le fumier des bêtes dans la vitalité de tes sols, des sols que vous produisez?
Ouais, bah moi je tiens à préciser que c'est Faustine qui gère le maraîchage sur la ferme, mais bien sûr il y a plein de complémentarités entre élevage de chèvres et maraîchage, et nous dans notre cas c'est donc une fois par mois on cure la chèvrerie et tout le fumier en fait il est récupéré, on le descend au jardin et Faustine ensuite elle le composte, elle le retourne. Voilà. Pendant plusieurs mois, il y a tout un processus de compostage du fumier et ensuite qui est utilisé pour ses plants, pour ses légumes. Et donc, en fait, la fertilité de ces sols, elle repose, oui, en partie sur notre élevage de chèvres et surtout pour l'apport en matière organique.
Ouais. L'apport d'azote, par exemple, sur le sol qui, en agroécologie, on le sait, est assez important. Simon, toi, de ton côté, tes chèvres, elles ne font pas que produire que du lait, elles parcourent tes châtaigneraies, pardon.
Oui, alors moi, du coup, j'ai le même avantage que Tom, c'est-à-dire que j'ai le fumier qui est curé de la chèvrerie, et en parallèle aussi, moi, les chèvres peuvent pâturer les châtaigneraies, ce qui n'est pas trop possible en maraîchage. Enfin, en tout cas, c'est pas souhaité. Les chèvres font une partie du travail toutes seules. Donc, à l'année, elles parcourent les châtaigneraies. Et donc, c'est de la fumure qui est directement remise au sol. Et oui, aujourd'hui, c'est primordial. C'est surtout que ça permet d'être plus autonome. Parce qu'on peut, je pense, faire des bons légumes ou des bons fruits sans animaux. Mais du coup, on dépend de quelqu'un qui va amener justement ces éléments. Alors que si on a des animaux, on peut le gérer un peu tout seul.
Oui, ça, il y a une certaine autonomie qui est intéressante vis-à-vis des animaux et au niveau de vos poulies activités, que ce soit le maraîchage ou la châtaigneraie. On entend souvent que l'élevage pollue, mais on oublie souvent que les prairies et les parcours sont des éponges à carbone. Simon, comment une gestion intelligente de tes bêtes permet-elle de maintenir des espaces que la culture, par exemple, de céréales ou autres, ne pourra jamais occuper ?
Il faut savoir déjà que, de manière générale, oui, ça pollue, mais quoi qu'il en soit, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Il y aura toujours des inconvénients sur chaque chose. La pollution, on peut en discuter, c'est un fait. Après, l'élevage, ça a aussi des gros avantages. C'est que, alors quand c'est des animaux qui pâturent, donc ça, on a parlé de la fumure, c'est aussi ce qui va permettre d'entretenir nos paysages, donc de maintenir des paysages un petit peu ouverts. Sur des châtaigneraies, donc moi le gros avantage c'est la fumure, on l'a dit, et c'est aussi le débroussaillage, c'est-à-dire que les chèvres vont faire une grosse partie du nettoyage des châtaigneraies, ce qui va moi m'éviter de le faire à la débroussailleuse et d'utiliser de l'essence par exemple, donc on va éviter ce côté-là aussi. L'autre avantage aussi, souvent en Ardèche on le dit en été, c'est tout ce qui est protection contre les incendies, et aujourd'hui une châtaigneraie c'est pas les parcelles qui prennent feu, parce que justement c'est des parcelles qui sont entretenues, contrairement aux forêts qui sont abandonnées qui sont parfois plus sensibles à ces problèmes-là.
Toi, tu peux nous en parler un peu de ton environnement dans lequel tu travailles et tes chèvres évoluent, par exemple, pour que l'auditeur puisse imaginer un peu ton environnement de travail?
Alors moi, mon environnement de travail, il est sur les contreforts du Tanargue, donc c'est vraiment que de la pente, donc c'est pas mécanisable. Donc si je veux débroussailler, c'est moi qui le fais avec ma débroussailleuse, mais je ne peux pas faire venir un tracteur et un broyeur. Donc c'est vraiment moi à la main ou alors avec mes chèvres. Et en fait, c'est pas pour rien que depuis des décennies, en fait, les gens avaient des chèvres ou des brebis sur ces pentes-là. C'est que c'était la manière la plus simple, en fait, d'entretenir des parcelles. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins d'élevage. C'est des parcelles qui sont de moins en moins travaillées, de moins en moins entretenues. Et du coup, qui s'embroussaillent très rapidement. Donc moi, c'est quasiment que de la forêt autour de la ferme. Et la forêt, c'est principalement soit des châtaigneraies aujourd'hui encore exploitées, soit des châtaigneraies qui ont été abandonnées. Et puis, depuis, il y a d'autres essences qui sont revenues. Il y a un peu de frêne, il y a de plus en plus de résineux aussi, parce que on est sur des terrains très acides. Et après, plus on monte après, on retrouve du genêt, on retrouve de la ronce beaucoup. Et la ronce, après, c'est quelque chose que la chèvre valorise bien. Donc,
Ok.
c'est moins problématique, on va dire.
Idem, Tom, si tu peux nous faire un peu expliquer, mettre en lumière un peu ton environnement de travail pour que les auditeurs puissent s'en rendre compte.
Oui, bien sûr. Après, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Simon. Mais ouais, les chèvres, elles permettent justement d'utiliser toutes ces zones qui ne sont pas du tout accessibles pour d'autres cultures. Et donc nous, la zone en fait où on emmène nos chèvres, donc c'est du gardiennage quotidien sur des parcours, et c'est le bois de paille-olive, donc un espace naturel réservé, bien préservé, un Natura 2000, et très calcaire. Donc il y a de la garrigue, il y a des sous-bois, il y a beaucoup enfin c'est des vallons, des crêtes, c'est très escarpé. Il y a des endroits inaccessibles, même nous on peut pas y aller, mais les chèvres elles peuvent y aller. Elles ont accès à toute cette zone, il y a une cinquantaine d'hectares. Et oui, l'élevage dans ce cadre-là, ça prend tout son sens. C'est des zones que seules les chèvres vont pouvoir transformer en un produit, enfin un fromage de chèvre, en protéines, en matière grasse, tout ça. Des choses qui se consomment. Et en même temps, ça entretient ce paysage. Il y a beaucoup de genêts, scorpions, par exemple. Et les chèvres, elles maintiennent la population de ces espèces. Voilà.
Parce qu'elle les comment dire, les fait fuir ou les comment ça se
Bah,
conduit?
elles mangent enfin une partie du genêt. Après, nous, il y a aussi un travail en tant qu'éleveur de aussi un peu débroussailler ces zones-là. Comme on est en garde, on a du temps pour ouvrir des zones, de nouvelles zones. Et donc, c'est très important en fait d'avoir des chèvres dans ces zones-là, en tout cas.
Oui, il y a
À ce niveau.
des zones. Historiquement, il y a une zone élevage et une zone culture. Et en fait, finalement, ça a été une erreur parce que vous, comme vous l'avez expliqué, finalement, vous mélangez les deux et ça crée une complémentarité, une sorte de symbiose en fait dans vos élevages.
Après culture, il faut voir aussi chaque lieu en fait est propre à une culture, enfin est propre à certaines cultures. Enfin moi, si je parle pour la Blache par exemple, si on fait du châtaignier, c'est globalement parce qu'on peut rien faire d'autre. C'est pas ici qu'on va faire pousser des céréales. Alors on peut faire un petit peu d'arbo. Il y a des pommiers, il y a des fruitiers de part et d'autre. Mais globalement, vu que c'est pas mécanisable, ça réduit quand même énormément les possibilités de travail. Et aujourd'hui, soit on valorise par l'agricole et ça va être des petites structures comme les nôtres, soit après c'est valorisé pour de la foresterie et l'exploitation du bois. Mais globalement, si c'est pas de l'agricole ou de la foresterie, c'est des zones qui sont plus du tout travaillées et plus du tout entretenues. Et d'où l'importance aussi de maintenir un petit peu soi, que ce soit de la culture ou de l'élevage, les deux vont être complémentaires. Entre autres, justement, ce que je disais tout à l'heure, que les animaux vont faire une partie du boulot à notre place, et c'est d'autant plus important en ce moment qu'on est de moins en moins nombreux à entretenir ces parcelles-là, et d'avoir l'aide des animaux, c'est d'autant plus important du coup.
Oui, bien sûr. Tom, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, du coup pour Faustine, donc la maraîchère, elle a un terrain bord de rivière, donc c'est vraiment adapté à la culture. De légumes, il y a l'accès à l'eau, c'est un terrain plat, limoneux, facilement mécanisable, c'était d'anciennes prairies. Et donc, oui, là, ça a tout son sens. C'est important de chaque zone, voilà, ses cultures qui lui sont propres. Et il faut optimiser ce genre de... Enfin, chaque zone, voilà, demande un certain type de production.
Oui, parce qu'en...
Végétale ou animale. Et...
Parce qu'en plus, vous, au Hameau-du-Buis, vous avez différentes activités. Vous avez donc la chèvrerie, le maraîchage. Il y a une boulangerie aussi.
Il y a une boulangerie, ouais.
Ouais. Est-ce que toutes les activités, elles sont complémentaires ou...
Peut-être pas la boulangerie. Enfin, la boulangerie, c'est un cas particulier parce qu'ils ils produisent pas leur blé. Mais on consomme leur pain, donc c'est super. Après, on a un élevage de poules pondeuses. Et ça aussi, ça permet d'entretenir. Donc on a une... on a un verger. Un verger, voilà, qui est de petits fruits et de pommiers. Et là, les poules, là aussi, elles sont adaptées à ce genre d'endroit avec des arbres fruitiers qu'elles fertilisent et en même temps elles se protègent, elles ont de l'ombre.
Des insectes aussi, peut-être.
Ouais. Et des ouais, voilà, exactement. Et nous, on leur donne le petit lait en mélangeant avec du blé, par exemple. Et donc là, on a une nouvelle strate, on va dire, de complémentarité. D'accord. Avec la fromagerie et. En fait, c'est garder ce qu'on produit dans un cycle sur la ferme et que les nutriments qui viennent de l'élevage puissent rester sur la ferme. Comme avec le fumier et le maraîchage, on a le petit lait avec les poules pondeuses.
Ok, je savais pas qu'on pouvait donner du petit lait aux poules pondeuses.
Elles adorent ça.
Ouais. Pour en revenir un peu sur la fertilisation des sols au niveau avec les animaux, est-ce que le fait de... est-ce que vous laissez vos chèvres pâturer librement ou vous les accompagnez sur certaines parcelles qui vous permettent... Enfin, vous avez un objectif dessus
Alors moi, pour ma part, il y a plein de cas de figure. librement ça arrive, parfois c'est pas du tout volontaire, c'est-à-dire qu'elles sont parquées et une chèvre quand elle a une idée en tête, c'est parfois compliqué de la retenir.
C'est buté une chèvre.
Très. Et je parle en période de châtaigne notamment, à partir du moment où elle sait qu'il y a une châtaigne à un endroit, peu importe qu'il y ait un chien, peu importe qu'il y ait une clôture pour l'arrêter, ça marche, en tout cas avec les miennes ça marche rarement. Mais oui, du coup, parfois c'est du pâturage libre, parfois c'est parqué, justement à la période avant la période des châtaignes pour le débroussaillage. On essaie de maintenir une pression un peu plus importante sur certaines parcelles, donc on les clôture un peu plus serrées justement pour qu'elles fassent vraiment du nettoyage, parce que la chèvre a tendance à être très difficile. Elle va vraiment choisir ce qu'elle veut, et si on lui laisse vraiment un trop grand espace, elle va beaucoup gaspiller. Et du coup, on adapte en fonction des périodes. Alors typiquement, en ce moment où la pousse des végétaux, elle est à fond, globalement, ça ne sert pas à grand-chose de trop les fermer, parce que dans tous les cas, elles n'arrivent pas à suivre le rythme. Mais à certaines périodes, notamment l'été, où il fait vraiment beaucoup trop chaud et les végétaux se mettent un peu en dormance, la pousse est quand même moins importante. Et c'est d'autant plus important, on va dire, de rationner un petit peu et de veiller à ce qu'elle gaspille pas trop. Parce qu'après, encore une fois, c'est des coûts en plus, parce qu'on revient sur l'autonomie. Moi, sur de la pente, j'ai pas ou peu de surface de fauche. Donc le fourrage qu'elles vont consommer, il est acheté ailleurs. Et donc c'est des coûts supplémentaires. On revient aux problématiques de qu'est-ce qui est produit sur la ferme, qu'est-ce qui doit venir d'ailleurs, parce que de toute façon on ne peut pas être autonome, aujourd'hui c'est pas possible. On a forcément soit des intrants, soit des ingrédients, que ce soit pour le fromage ou autre, qui viennent d'ailleurs. Mais voilà, il faut toujours trouver un juste milieu entre ce qu'on peut produire nous, ce qu'on peut valoriser nous sur la ferme, et ce qu'on devra faire venir d'ailleurs.
Tom, vous sur le hameau, votre problématique comparée à la châtaignerie de Simon?
Oui, c'est assez différent. Nous, on n'est pas sur des parcs, et on est sur de l'extensif, donc du parcours quotidien, et on a une grande zone, Et donc, nous, notre problématique, c'est de ne pas avoir une pression trop importante sur la zone dans laquelle on pâture nos chèvres. Parce que bah, c'est vrai que c'est des feuillus, c'est des ligneux, surtout des bois, et elles mangent beaucoup de tout ce qui est feuillage, en fait. Et ça, ça n'a pas le même type de pousse que le pâturage, que l'herbe, tout ça. Donc faut faire très, enfin faut vraiment faire attention, ouais, de pas justement détruire plus que, enfin détruire en fait les parcours qu'on utilise. Et donc comme c'est du, ouais, on les sort tous les jours, et donc on essaye de faire différents parcours en différents selon les saisons, et de les emmener à différents endroits à chaque fois. Pour laisser, en fait, dans la théorie, c'est laisser un tiers, c'est que les chèvres ne mangent pas plus d'un tiers de la végétation qui leur est disponible. Et donc, à partir de ça, on essaie de faire en sorte de les emmener aux endroits et surtout de créer des zones avec des périodes et laisser reposer surtout. C'est reposé et voilà.
Ok, parce que en fait, il y a des saisonnalités, à respecter autant pour les cultures que pour vos chèvres, en fait, de ce que je sais en termes de lactation, de nourriture que pouvez leur apporter, de ce que vous avez aussi envie de produire, peut-être en tant que fromage, vous n'allez pas forcément avoir la même stratégie, on va dire, de pâturage.
Ouais, moi je le vois, alors je ne sais pas comment ça marche au début du coup, mais moi en châtaigne, je le vois avec mes voisins castanéiculteurs, c'est que très souvent les producteurs de châtaigne font de l'abattage d'arbres ou de l'élagage l'hiver. Alors déjà pour l'arbre c'est plus cohérent, on va dire, et puis surtout il n'y a pas de feuilles, donc ça fait beaucoup moins de travail, parce que quand on débarrasse le bois il n'y a pas de feuilles à transporter. Et moi je fais l'inverse, alors pas pour l'élagage, ou en tout cas j'évite, mais en tout cas pour de l'abattage, quand j'ai des arbres à couper, justement je le fais en plein été, au moment où l'herbe est devenue jaune paille et qu'elle est plus du tout valorisable par les chèvres. C'est à ce moment-là que je coupe mes arbres, parce qu'en fait je coupe le matin, et après je laisse l'après-midi les chèvres manger le feuillage, et ça leur fait du vert, en fait en plein été, à un moment où il n'y a plus de pousses d'herbe. Et l'intérêt du coup pour moi il est là, c'est de valoriser à certains moments certaines ressources qui ne sont pas disponibles autrement. Couper un arbre en hiver, alors oui, moi ça va me faciliter la tâche, mais par contre il a le seul intérêt de le couper en hiver, c'est justement ça. Si je le fais en été, j'ai le double emploi avec les chèvres, et c'est un double bénéfice. C'est un double bénéfice pour moi, on va dire.
Tom, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, bah nous, oui, c'est très différent notre type d'élevage. Nous, on les sort vraiment toute l'année sur donc le bois de Paoli, donc c'est la zone. Donc nous, c'est pour ça que on fait vraiment attention à ce qu'il y ait toujours assez de repousse d'année en année pour nourrir des chèvres, nos chèvres, et ne pas devoir aller de plus en plus loin pour trouver assez de fourrage pour les nourrir. Mais oui, c'est un équilibre pas facile à atteindre, surtout avec les chèvres qui font un peu n'importe quoi. Des fois, moi j'ai pas de chien de troupeau, d'ailleurs j'en cherche un, si jamais. Et mais ouais, elles en font des fois à leur tête, et mais bon, on essaye de notre mieux, on fait de notre mieux.
Et oui, parce que si vous êtes sur le bois de paille-olive, comme tu as dit, c'est une zone protégée. Est-ce que en fonction de la zone, vous avez une réglementation justement à respecter, et au niveau de ce que les chèvres peuvent manger ou pas? J'imagine que c'est d'être assez quand même réglementé, ou...
Après les zones où on emmène, c'est des propriétés, propriétés privées, et donc on a des droits de pâturage sur cette terre, et donc en général les propriétaires veulent que nos chèvres débroussaillent leur terrain, justement ouvrent le bois, et avec les risques d'incendie aussi. Donc c'est plutôt bien vu et favorisé d'avoir nos chèvres pour limiter justement la végétation. Mais ensuite, c'est à nous de faire attention à ne pas justement. Ne plus avoir assez de végétation.
Et ouais, parce qu'il ne faut pas que ça manque non plus, quoi.
Mais en fait, il y a de la végétation, mais c'est celle accessible aux chèvres. Mm. Et c'est celle-ci qui, si elles ne repoussent plus, elles ne peuvent pas grimper aux arbres. Enfin, il y a certains arbres qu'elles peuvent grimper, mais. Mais bon, elles vont toujours vers ce qui est le plus simple.
Accessible,
ouais.
Mm. Après, il y a une autre problématique aussi au niveau du surpâturage. Donc déjà, il y a effectivement la repousse, comme l'a dit Tom, il y a aussi le parasitisme.
Ah oui.
C'est que les chèvres sont très sensibles aux parasites, et le fait de surpâturer une parcelle, en fait, tout ce qui va, le cycle des parasites va être d'autant plus contraignant pour nous. C'est-à-dire qu'elles vont réingurgiter en fait les œufs de certains parasites, et du coup accentuer leur parasitisme interne. Alors elles peuvent tolérer un parasitisme qui reste assez faible, elles le supportent assez bien. Le problème, c'est quand il devient plus important, après c'est des problèmes plus sanitaires sur le troupeau, c'est de la baisse d'état corporel, ça va être des baisses de production, et puis à la fin il peut même y avoir des gros problèmes de santé sur certains troupeaux, quand justement il y a trop de parasitisme. Donc c'est un peu ce que disait Tom tout à l'heure, c'est qu'on essaye de pas surpâturer aussi pour casser les cycles de parasitisme, c'est que si le parasite, son œuf s'est développé pendant un certain temps, et qu'il n'a pas retrouvé d'hôte, donc la chèvre en l'occurrence, pour se redévelopper, eh ben en fait, il va finir par mourir, et donc il sera plus présent sur la parcelle. Et si on laisse, ça dépend des parasites, mais en général on dit qu'il faut au moins 3-4 mois de délai de retour, au moment où on va revenir 3-4 mois plus tard, la parcelle sera de nouveau considérée comme saine, et la chèvre ne va pas se reparasiter sur cette parcelle-là.
Ok, je ne savais pas que ça pouvait être aussi réfléchi, en fait, notamment en termes de parasites pour les animaux. On n'y pense pas forcément. Pour faire une petite conclusion sur cette première partie, on retient que l'animal, c'est un peu le trait d'union entre le paysage sauvage et la terre cultivée. Mais une fois que ce travail est fait, la question un peu qui subsiste, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre assiette ? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de notre podcast. Merci à tous pour votre écoute, et on se vous dit au prochain épisode.